Et je reçois la cinéaste Mia Hansenlove. Bonjour, merci d'être dans ce studio. Votre film Maya sera sur les écrans mercredi prochain. On va en parler. Pour les auditeurs qui ont encore la chance de voir vos films parce qu'ils ne les ont pas vus, votre premier film a été en 2007. Tout est pardonné. Vos films ont été très largement primés. Vous êtes représentante de la nouvelle génération des cinéastes françaises. Tout est pardonné a obtenu le prix Louis de Luc, Le père de mes enfants a obtenu le prix Lumière et L'avenir a obtenu l'ours d'argent de la meilleure réalisatrice. C'était à la Berlinale en 2016. Un film, donc un nouveau film de vous est un événement et c'est un film lumineux, assez romanesque. On reviendra sur ce thème. Ce film présente le destin de deux journalistes français libérés de Syrie, dont surtout l'un d'entre eux que nous allons suivre. Ça se déroule en décembre 2012. Il s'appelle Gabriel. Il est trentenaire. Il a été retenu comme otage avec deux autres journalistes. On le voit passer un peu de temps avec sa famille, avec son ex-petite amie en France. Et puis, il décide, à la manière un peu d'une thérapie, d'aller en Inde, plus précisément à Goa. Il s'agit au début de reconstruire une maison. Et là, il va rencontrer une très jeune femme avec une histoire romanesque que l'on peut imaginer. Mais au départ, il s'agit avant tout du retour d'un otage qui est confronté à un psychologue. On va écouter un extrait de votre film, Mia Hansenlove.
Vous envisagez un soutien psychologique ?
Je l'envisagerais si nécessaire, mais je préférerais pas. Je m'épanouis dans l'action, pas dans la parole.
Votre métier a pourtant à voir avec la parole.
Oui, mais une parole en prise avec des événements concrets, la réalité tangible. L'idée de rester des heures dans un canapé à parler de moi, ça c'est mes mauvais souvenirs.
Trouver les mots pour exprimer une expérience inouïe, mettre en relation des événements de votre vie qui peuvent paraître éloignés, c'est utile parfois, vous ne pensez pas ?
Analyser, disséquer, on l'a beaucoup fait avec Frédéric pendant 4 mois. Et là, j'ai envie d'autre chose. Et pour être franc, je pense que ceux qui ont le plus besoin d'une psychanalyse, ce sont nos ravisseurs.
Peut-être, oui. Mais en ce qui vous concerne, il y a l'avant et l'après. Vous sortez changé de cette expérience. Vous comptez à nouveau exercer votre métier ?
La question se posera. Et pas aujourd'hui.
Un extrait de votre film Maya, Mia Hansenlove. On entend donc ce journaliste qui vient d'être libéré, Gabriel. Il s'entretient avec un psychologue. Il est question de choc post-traumatique, comme on dit. Alors c'est un film qui, à la manière de vos autres films, est en partie autobiographique, ou en tout cas on retrouve des éléments biographiques à l'intérieur de celui-ci. Pas effectivement le fait d'être un journaliste libéré après avoir été pris en otage. Justement, pourquoi avoir décidé de traiter de ce thème-là ?
Oui, c'est en réalité mon film qui est le plus éloigné de toute forme d'autobiographie par rapport à mes films précédents. J'avais un intérêt, une curiosité évidente, enfin certaine pour ce métier, sans doute accrue au moment de la guerre, enfin depuis le début de la guerre en Syrie. J'ai dû éprouver une sorte de fascination à la libération de certains journalistes et je me suis interrogée de plus en plus sur cette fascination, justement sur ce qui la définissait et sur le silence en fait qui entourait ces journalistes, à la fois la parole puisque certains en arrivant racontent, parlent avec beaucoup d'aisance et puis d'autres restent en retrait, plus réservés. Et je crois que mon attention a été attirée par ceux qui étaient davantage au second plan, plus réservés, voilà. Mais je crois qu'au-delà de ce moment très connu, enfin des libérations, c'est la force obscure, enfin de ces journalistes qui les poussent à retourner sur des terrains de guerre, souvent très peu de temps après avoir été libérés. C'est cette force qui les caractérise et qui est celle de la vocation, je crois, qui m'a le plus fascinée et inspirée.
Qu'est-ce qu'ils cherchent justement, d'après vous, ces journalistes qui savent très bien qu'ils sont exposés à un danger ?
Mais le savent-ils eux-mêmes ? Je ne sais pas. Il y a un aspect, bien sûr, d'engagement. Ils cherchent à témoigner, mais en même temps, on ne peut pas réduire leur métier à la volonté de témoigner, puisqu'il y a quand même une certaine ambivalence ou ambiguïté dans le rapport qu'ils ont, je crois, à la guerre, à la mort. Il y a quand même une forme d'addiction. Et cette ambivalence-là est précisément ce qui m'a intéressé et ce à quoi je peux pas dire à quoi je m'identifie, mais en tout cas ce qui me pousse à écrire pour essayer de la comprendre.
Justement, on a retrouvé l'extrait d'une interview d'un grand reporter, Olivier Weber, sur le syndrome post-traumatique. C'était dans la fabrique médiatique de ma camarade Caroline Brouet.
Nous sommes des témoins, nous sommes donc des journalistes, on rapporte des faits, on les décrypte, hein, donc finalement, encore une fois, c'est notre sujet qui parle, mais nous sommes aussi victimes quelquefois. Adrien parlait du syndrome post-traumatique de guerre, bien connu des humanitaires et des soldats, mais il est aussi bien connu, mais malheureusement non traité pour les reporters. Et ce qui m'a intéressé aussi dans l'histoire, et depuis la guerre d'Espagne, mais aussi auparavant, c'est comment des grands reporters assez connus d'ailleurs, comme Hemingway, comme Malaparte, l'Italien, comme Dos Passos, l'Américain, comme Steinbeck, le prix Nobel de la comme Vassili Grossman, le soviétique, comment il bascule vers l'écriture de romans parce que trop c'est trop. Et pour moi, quelquefois, la fiction non pas dépasse la réalité, mais la transcende et l'explique quelque part. Moi, j'ai davantage compris certains conflits au Liban, au Vietnam, au Rwanda ou l'Afghanistan par des romans que par des reportages. Donc quelquefois, la fiction peut aider à cela et je comprends aussi ce point de bascule parce que la violence vous affecte quelque part. En même temps, on est là, comme je le disais, pour parler des autres.
Alors vous, votre personnage, Gabriel, dans votre film, il y a Hansen Love, film qui s'intitule Maya, il n'est ni dans l'écriture, puisqu'il ne veut pas écrire son histoire, il n'est pas, de manière évidente en tout cas, dans le stress ou dans le choc post-traumatique. Pourquoi ?
Parce que si je suis partie d'une situation très connue, j'ai voulu en même temps aller vers l'inconnu et échapper au stéréotype, c'est-à-dire que mon projet n'a jamais été de faire un film sur le stress post-traumatique, non pas que je remette en doute le fait qu'il existe et qu'il fasse partie de la reconstruction pour tout journaliste qui a été victime qui est resté captif,
qui est resté otage.
Voilà, c'est évident, mais en même temps, moi, cinéaste, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plutôt vers le singulier, vers ce qui échappe aux stéréotypes. Et donc, ce qui m'a plu dans le fait d'écrire ce film, c'est le fait de pouvoir partir de cette situation si connue pour progressivement aller vers ce qui, chez mon personnage, justement, diffère du général et le rend absolument singulier, et notamment ce voyage en Inde, cette rencontre avec une personne maya.
Alors justement, on va y venir, Mia Hansen Love, mais avant ça, quels sont les liens entre cette profession de journaliste où il s'agit de raconter les histoires d'autrui, parfois donc au risque de sa vie, et puis la profession de cinéaste qui est celle que vous avez épousée ?
Il serait très présomptueux de ma part de chercher artificiellement à établir des liens entre des métiers qui sont quand même très différents et le fait de faire des films ne demande pas le genre de courage qu'il faut avoir pour exercer le métier de reporter de guerre. S'il y a peut-être une chose qui nous relie ou en tout cas par laquelle je me sens reliée à ce métier, je dirais que c'est tout simplement l'addiction. C'est-à-dire que j'ai moi aussi un rapport d'addiction à la pratique du métier de cinéaste, addiction sur laquelle je m'interroge souvent ce qu'elle peut avoir de très
addiction à quoi ?
Positif.
À l'action, dans votre cas ?
À l'action. Donc c'est en ça aussi que je peux m'identifier, enfin par ce biais-là, disons que je peux m'identifier en tout cas à mon personnage Gabriel, le désir d'y retourner, oui, à l'action, le fait d'être sur le plateau, dire sur le terrain, mais en tout cas, moi, c'est vraiment le tournage en lui-même qui est la partie qui m'excite le plus, dans laquelle je me sens le plus épanouie, et je crois que si j'écris des films, c'est avant tout pour retrouver cette intensité-là du tournage. Donc, même si ce sont des situations bien évidemment très très différentes, il n'y a pas de mérite, moral à vouloir faire partie d'un tournage, raconter une histoire. En tout cas, il y a cette chose-là qui reste assez mystérieuse et ce besoin d'y retourner. Donc, je crois que c'est vraiment par ce biais-là que je me suis identifiée à Gabriel.
Et alors le rapport aux acteurs, parce que par exemple on retrouve Romain Kolinka qui est un acteur très convaincant, il a déjà joué dans vos trois derniers films, là il campe donc ce journaliste Gabriel, quels sont les liens qu'on établit avec les acteurs, dans quelle mesure justement l'action elle passe par le fait de faire vivre d'autres vies
hein. Pour moi, le plaisir passe énormément par le fait de ne pas jouer moi-même dans les films et de m'exprimer à travers d'autres présences, d'autres corps, d'autres personnalités et cette transformation nécessaire qui fait que si vous partez de vous-même, et c'est souvent mon cas, enfin pas de moi-même au sens où mes films seraient autobiographiques parce qu'ils ne le sont pas, mais du moins de situations que j'ai connues, de personnes que j'ai croisées, de choses vécues, je m'en éloigne en même temps en les racontant à travers d'autres présences qui vont forcément apporter des choses qui vont modifier parfois même de façon essentielle le contenu du film. Et donc c'est toujours une rencontre entre vous et un comédien et sa propre personnalité. C'est justement ce déplacement que je trouve qui donne tout son sens à un film.
Bon, il y a quand même peut-être un lien entre Mia, c'est votre prénom, et Maya, je crois que c'est le titre du film. C'est pas très différent quand même, Mia Hansen Love.
Alors je crois sincèrement que c'est un pur hasard. Maya,
vous croyez vraiment ou
c'est... Je le crois absolument. Absolument, peut-être, je me fais beaucoup d'illusions, mais Maya, non, c'est beaucoup de choses pour moi, mais c'est pas dans le titre que je me reconnais, c'est plus en Gabriel. Maya, c'est à la fois ce terme qui, en sanskrit, renvoie à l'illusion et à la création en même temps, et qui, pour moi, évoque toutes sortes de choses avec lesquelles mon film travaille. C'est aussi une chanson du groupe Incredible String Band que j'ai beaucoup écouté, notamment quand j'étais en Inde, un groupe... disons hippie, et c'est une chanson qui m'a toujours beaucoup exaltée. Je crois qu'elle est pas indifférente au choix de ce nom. Voilà,
c'est le fait que ce soit un homme, Gabriel, qui tombe amoureux d'une fille plus jeune, je ne sais pas.
Ah, ça, vous voulez savoir si c'est
autobiographique,
si c'est
exemple.
Autobiographique, ça, je peux pas répondre à cette question, mais non, le film ne raconte pas ma vie en aucun cas, et je dois dire, ça m'a surpris moi-même à quel point par ce film j'avais pu m'éloigner de mes inspirations précédentes, et j'ai eu le sentiment de me laisser plus que auparavant porter par une forme d'inconscient, et à vrai dire, je m'en suis réjoui.
Alors si on met de côté donc les ressemblances avec vos autres films, on en reparlera. Mia Hansen Love, il y a effectivement une volonté de faire un film romanesque assez lumineux en filmant l'Inde, puisque donc le principal de l'action se déroule en Inde, à Goa. Quels sont les choix que vous avez faits pour tourner ces scènes qui sont évidemment lumineuses, foisonnantes, très vivantes?
Toute la difficulté pour moi de ce tournage en Inde, c'était d'arriver de concilier à la fois l'ambition qui était celle de la mise en scène, d'une recherche, d'une forme de fluidité, de précision, d'arriver à garder le regard qui était le mien, même si je n'étais plus dans un territoire familier. Donc cette ambition-là, de parvenir à la concilier avec une ouverture à ce qu'était l'Inde, à la façon dont je la voyais, d'être capable de capter la vie indienne sans la trahir, parce que souvent les tournages modifient le décor dans lequel vous vous trouvez, et ça aurait pu être particulièrement vrai en Inde, puisqu'en arrivant avec une équipe, on peut attirer très facilement l'attention, et j'ai tenté de rester aussi discrète que possible avec mon équipe, parce qu'il y avait toutes sortes d'implications, et donc voilà, de trouver l'équilibre entre cette discrétion, se rendre invisible dans une rue pour filmer la rue telle qu'elle est, telle que vous la voyez, et en même temps ne pas renoncer à ses ambitions de mise en scène.
Et puis c'est une histoire sensuelle, il y a donc le rapport au corps, à la jeunesse, là aussi c'est un thème important dans ce film, Mia Hansen Love.
Absolument, et je crois qu'en ça, le film, je l'ai écrit presque pour contredire mon film précédent, L'Avenir. C'est souvent comme ça que je trouve un film.
Pourquoi?
En réponse au précédent. J'ai entendu une cinéaste, je crois que c'était Claire Denis, il y a longtemps, dire ça, qu'on faisait un film contre le précédent. D'ailleurs, quand on voit ces deux derniers films, c'est assez frappant. Ils sont très très différents, voire opposés. Et c'est un sentiment que j'ai aussi souvent quand je fais un film, qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit, que j'aurais voulu dire autrement, ou que j'aurais besoin de compléter, qu'il y a un vide vide à un endroit. Et quand j'ai fait L'Avenir, j'ai accompagné ce personnage interprété par Isabelle Huppert pendant 2 ans, ce personnage très solitaire qui renonçait à une forme de sensualité dans sa vie. Et je crois qu'il y a eu quelque chose d'assez douloureux pour moi dans ce renoncement, même si il y avait une autre vie possible, un autre bonheur, une autre forme de plénitude possible même pour ce personnage. Et faire Maya, pour moi, c'était revenir au corps, c'était revenir à la sensualité. Il y avait quelque chose de presque vital pour moi dans ce projet.
Oui, justement dans ce retour à la vie, puisque c'est un ex-otage qui vit ça, et donc il dit oui à la vie dans une sorte de moment solaire, dans un lieu solaire. Je crois que c'est un lieu qui vous est cher, Goa.
C'est un lieu que je connaissais relativement bien. J'y avais été pendant plusieurs années. J'y avais même écrit l'un de mes films. Néanmoins, j'ai le sentiment de le connaître bien mieux maintenant que j'y ai tourné et que j'y ai passé des mois à découvrir un peu Goa sous toutes ses facettes. Et c'était d'ailleurs aussi le projet de ce film. Je voulais me confronter à une autre culture, tenter de m'en approcher davantage, la comprendre mieux. Et pour ça, faire des films, c'est une assez bonne manière, je crois, de vous mettre en contact avec toutes les dimensions d'une société.
Qu'est-ce qu'il a de particulier pour vous, ce lieu, Goa, en Inde? Alors, c'est à la fois très indien, très international.
Goa, c'est un lieu qui est souvent mal aimé en Inde par ceux qui aiment l'Inde, parce que souvent, j'ai souvent entendu dire, mais Goa, c'est pas l'Inde, parce que c'est très touristique, parce que ça a été très abîmé depuis que les hippies dans les années 70 l'ont élu. Il y avait une authenticité sans doute à ce moment-là qu'aujourd'hui, dont on peut dire qu'elle a disparu aujourd'hui. Et néanmoins, il y a quand même un charme de Goa qui réside, je crois, dans un foisonnement, dans un mélange de cultures, de religions, dans cette cohabitation-là, et la façon dont l'Inde, malgré tout, se réapproprie tout ce qui vient de l'extérieur, même ce qui pourrait lui paraître le plus étranger. Après, il y a quelque chose de très subjectif, c'est simplement le temps que j'y ai passé, les personnes que j'y ai rencontrées, les souvenirs que j'ai là-bas, et j'ai pensé que retourner à Goa me permettait de trouver la bonne distance avec l'Inde, dans le sens où il restait évidemment un écart considérable, puisque je ne suis pas indienne, c'est pas ma culture, et en même temps je connaissais, je crois, suffisamment bien Goa pour pouvoir la filmer.
Et puis alors, il y a dans Goa quelque chose d'important pour vous aussi, c'est la musique, avec un lien particulier. Donc à Goa, il y a un type de musique qui est particulièrement populaire. Il y a d'autres types de musique également dans votre film, et notamment il y a Judith Chemla qui chante.
Je suis impatient de retourner au village. Bateau, sortir en mer.
Je ne sais pas ce qui t'attend, hein. Le maire, il est surexcité, il va t'accueillir comme Zidane après la Coupe du Monde.
Et toi, Gabriel, t'as des projets?
Non, aucun pour l'instant.
De toute façon, je ne te laisserai pas repartir.
T'inquiète pas, je vais me poser d'abord.
Naomi, il faut que je te demande une chose.
Oh non, merde, je vais pas pouvoir refuser.
Tu veux bien chanter?
Oh non, non.
Gabriel, quand il me parlait de toi, il commençait toujours par ta voix. Il disait qu'elle lui donnait des frissons. Mais je pense que c'était pour me rendre jaloux.
Je pense. Allez, vas-y. On veut t'entendre.
Sois pas timide.
C'est toute petite. Hey, non. Naomi.
Si, tu peux le faire, vas-y.
Bon, d'accord, mais vous éteignez les... Je sais pas, il y a trop de lumière, faut éteindre les lustres.
Ah oui, la diva.
Mais attends, si tu commences à me charrier...
Oh!
Un extrait de votre film Mia Hansen Love, Maya. On entend Judith Chemla qui chante. Elle chantait vraiment, c'était une prise live, comme on dit.
Oui, absolument. Judith, c'est à la fois une grande comédienne, mais aussi une chanteuse assez merveilleuse que j'avais découvert dans un spectacle de Jeanne Candel. Et j'ai écrit le rôle en pensant à elle.
Et la musique joue un rôle extrêmement important dans vos films.
Oui, d'ailleurs, on parle souvent de la musique de mes films, alors qu'il y en a en fait relativement peu, voire très peu, si on compare à beaucoup de films qui travaillent dans lesquels les réalisateurs travaillent avec des compositeurs. Moi, je n'ai jamais travaillé avec un compositeur, donc finalement, les seuls morceaux qu'il y a dans mes films, ce sont ceux qui écoutent mes personnages. Ce sont presque exclusivement ce qu'on appelle des musiques de source, mais je crois que comme elles sont entourées de silence, puisqu'il n'y a pas de musique de film dans mes films, ces morceaux sont d'autant plus marquantes, et de plus le fait qu'elles soient écoutées également par les personnages quand elles interviennent fait que elles sont vraiment au centre du film au moment où elles passent.
Alors je l'ai dit tout à l'heure, vous incarnez cette nouvelle génération de cinéastes, Mia Hansen Love. Parmi les références que vous évoquez, il y a beaucoup Truffaut, Romère. Comment vous accompagne-t-il quand vous songez à un film, quand vous êtes en train de confectionner un film?
C'est vrai que je les cite beaucoup, c'est pas pour me chercher à me faire valoir, mais c'est simplement que ce sont des cinéastes qui m'accompagnent, qui m'obsèdent depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai 20 ans. Ce sont pas les seuls, mais ceux-là reviennent beaucoup. Et par exemple, Romère, oui, il est pas rare quand je tourne que je repense à un de ses films au détour d'un plan, par exemple à Goa. On est parti un jour tourner une scène en mer et on a croisé des dauphins. Et j'avais absolument pas prévu de filmer des dauphins dans ce film. Ça faisait pas du tout partie de la scène. Mais il y avait un émerveillement au sein de l'équipe et moi-même, à vrai dire, avoir passé ce banc de dauphins qui ressemblait pas du tout aux dauphins qu'on voit dans les films. Et on a choisi de le filmer et ces dauphins se sont finalement retrouvés dans le film. Et j'ai pensé au rayon vert au moment où je tournais cette scène et c'est ce qui m'a donné envie de filmer ces dauphins. Voilà.
Alors, on a parlé donc des différences de ce film. Alors, même si vous avez toujours filmé la jeunesse, alors sauf dans l'avenir justement où il y avait Isabelle Huppert, mais elle était entourée d'étudiants. En revanche, il y a quand même des thèmes qui sont des thèmes propres à votre cinéma, Mia Hansen Love. Par exemple, le deuil. Alors, ça peut être un amour, un départ. La question de la résilience, qui est malgré tout au cœur de ce film avec cette ex-otage, ce sont des thèmes que vous avez décidé d'explorer dans chacun de vos films.
Oui, ou la vocation. Oui, je crois qu'il y a des thèmes qui parcourent mon cinéma et auxquels je reviens de façon un peu obsessionnelle, mais je ne dirais pas que j'ai décidé, à vrai dire, je n'ai jamais décidé d'écrire sur quoi que ce soit. Ce sont des sujets, enfin les thèmes ou les films s'imposent à moi et à vrai dire j'aimerais bien pouvoir décider sur quoi j'écris.
Comment s'impose-t-il à vous?
Parce qu'à un moment, certains personnages, thèmes me hantent, il y a un mouvement qui se crée en moi et je ne peux que le suivre ou m'abstenir d'écrire. Et comme c'est mon métier de faire des films, je décide en général de suivre ce désir, ce mouvement, cette obsession hantise. Enfin, je ne sais pas comment il faut
l'appeler. Mais alors comment ça se passe? Vous êtes seul à décider? Vous en discutez?
Non, je laisse les choses mûrir en moi. Et puis à un moment donné, enfin comme tout le monde, je prends des notes. Mais en général, je ne fais lire mes scénarios que quand ils sont terminés. C'est quelque chose que je mûris de mon côté, en silence et dans le doute d'ailleurs. Donc c'est que quand c'est terminé que je l'expose.
Mia Hansen Love, Maya, votre film mercredi prochain. C'est un film lumineux, vivant. On a besoin de soleil en ce moment.
Disco 82.
Disco 82, c'est dans la bande originale de votre film Mia Hansen Love. Ça plaît beaucoup en régie, danse en régie, mais malgré tout, il va falloir que la musique s'achève pour laisser la place à mes camarades Aurélien Bélanger, Sébastien Le Foll-Dupont et Mathilde Serrel.